attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Poisy.
Un des gros dossiers retient l'attention, c'est la carboneutralité d'ici 2050. Puis, gaz à effet de serre, une des industries qui en produit, c'est l'industrie agricole. Et principalement, l'industrie laitière. Je me souviens, quand on travaillait sur les gaz de schiste, on disait, Nathalie Normandeau, qui était ministre à l'époque, disait, un puits de gaz de schiste, ça pollue moins qu'un pet de vache. Bon, pet de vache, c'est pas si pire en termes de méthane. Et les rots de vache, par contre, en termes de méthane, il y en a pas mal. Puis du méthane, c'est beaucoup plus, ça a des effets beaucoup plus importants sur les changements climatiques. Parce que c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. Sauf que les producteurs de lait veulent atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Est-ce que c'est possible? Comment on peut atteindre la carboneutralité? Pas sûr que les vaches vont arrêter de faire des rottes. En tout cas, on va en parler avec Daniel Gobeil, qui est président des producteurs de lait du Québec. Monsieur Gobeil, bonjour.
Oui, bon matin, Monsieur Foisy.
Bon, 2050, ça peut paraître loin, mais pour les agriculteurs, il faut y penser tout de suite si on veut y arriver, là.
Oui, exactement, exactement. Nous, on tient compte de l'analyse du cycle de vie depuis 2011. Puis on voit là quand même une très belle amélioration au niveau des fermes laitières du Québec et du Canada. Puis c'est pour ça qu'on amenait cet énoncé-là, là, justement, pour se donner les moyens de nos ambitions, puis vraiment là de travailler à atteindre ces objectifs-là.
Comment on peut y arriver? Parce que c'est un objectif qui est ambitieux, mais il y a de la production de gaz à effet de serre à presque tous les niveaux, là, dans le champ pour la nourriture, avec l'engrais. Les vaches comme telles produisent des gaz à effet de serre aussi. Les gens veulent continuer de consommer du lait, fait qu'on n'arrêtera pas de consommer du lait. On tient à nos fermes familiales, donc... On commence où pour soit réduire les gaz à effet de serre ou pour en capter des gaz à effet de serre?
Ben, je vous dirais, c'est un élément qui englobe un peu tout ça. On a quand même l'opportunité d'avoir le territoire agricole là, comme producteur laitier, là, avec beaucoup de pâturage, beaucoup de production fourragère, qui sont un puits de carbone là, qui est très intéressant pour la captation de carbone. Mais c'est clair là, que la vache va toujours... Là, dégager là certains, que ce soit par les pets ou les rottes, pour prendre ces termes-là. Mais il y a encore beaucoup de recherches. Je vous dirais, là, nous, à court terme, ben un, la première étape, c'est de faire vraiment là un état des situations. Puis on regarde les meilleures actions là avec la chaire d'éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis vraiment les meilleures actions pour justement s'améliorer, puis amener là le producteur à faire des actions là sur les fermes. Là. Puis qui sont durables.
Est-ce que ça va coûter plus cher?
Ben, je vous dirais, c'est dans le cultiver ou dans le soin. On voit, là, il y a beaucoup de recherches en ce moment sur, je prends par exemple, des additifs alimentaires. Il y a certains additifs alimentaires qui réduisent là, la production de la vache de plus de 30%. Mais avant de nourrir les animaux avec ces produits-là, ouais. Avant d'amener ça à large. Il faut évaluer les impacts sur le produit, sur l'animal. Ça fait que c'est clair que ça fait partie là, de recherches qu'on demande là, justement d'avoir des partenaires comme le gouvernement là, du Québec et du Canada pour aller encore plus vite.
Mais en termes de coûts, là, avez-vous une idée de combien ça pourrait coûter à moyen terme? Là?
Non, honnêtement, nous, c'est excusez, ça reste là, des actions qui sont volontaires. Mais que ça soit des coûts, quand on parle d'élargissement de bandes riveraines, quand on parle d'implanter des cultures de couverture en automne, c'est des pratiques là que depuis plusieurs années les effets positifs là sont remarqués sur les fermes. Mm. Fait que oui, il y a un coût, mais il y a un bénéfice là associé à ces actions là. Mais c'est clair que comme je disais tantôt, on a beaucoup de terre. Le gouvernement veut qu'il y ait des actions qui soient faites. Sur les terres agricoles. Fait que c'est clair que des programmes de rétribution agro-environnementale, là, comme on a vu là, au niveau du MAPAC cette année, c'est des modèles là, qui sont très prisés par les producteurs. Là, de reconnaître le travail qui est effectué, puis de valoriser les bonnes pratiques. Là.
Puis est-ce qu'il y en a comme des projets pilotes? Est-ce qu'il y a des fermes qui sont plus en avance que d'autres? Est-ce qu'il y a des fermes qui, je sais pas, dans 2 ans, on pourrait avoir une pinte de lait carboneutre en quelque part au Québec?
Oui, c'est clair qu'il y a des... Écoute, on a des études là, en ce moment avec Solutions agricoles pour le climat. On a des portraits là, détaillés de plusieurs fermes laitières au Québec. On a encore déposé d'importants projets là, au niveau canadien, des projets de recherche de plus de 10 millions pour vraiment là, travailler concrètement sur les fermes, là, les fermes de tous les jours. Là, pas seulement les fermes de recherche, là, les fermes en production continue. Fait que c'est ces éléments-là là, qui vont nous permettre d'aller vraiment plus vite puis d'apporter des actions concrètes. Là.
Bon, ça arrive, mais c'est pas, on n'a pas une date avant 2050.
Là. Oui, ben c'est clair qu'on nous, on a, je vous dirais qu'on a pris cet engagement-là. C'est clair qu'on a des objectifs. En ce moment, on n'a pas fixé encore d'objectifs intérimaires. Intérimaires parce que justement, on est à l'étape de excuse-moi.
Voulez-vous prendre un petit verre d'eau? Avez-vous de l'eau?
Oui, j'ai un petit peu de rhume.
Ah, OK, moi, ça c'est.
Notre portrait, là. Mais quand notre portrait va être connu en long et en large, ben, c'est clair qu'il va avoir des objectifs intérimaires, là, comme toute industrie, là, de 2030. Puis d'avoir des actions, là, aussi pour aller plus loin en 2050.
Non. Avez-vous peur, comme producteur, qu'à un moment donné, les changements climatiques entraînent c'est pas moi, un ressac de la population, là, parce qu'on l'entend, il faut manger moins de viande parce que la viande produit beaucoup de CO2. Bon, il y a le lait, je sais que vous êtes producteur de lait, là, mais de façon générale, comme agriculteur, avez-vous peur qu'il y ait un gros ressac de la population puis que maintenant, on se dise, tout ce qui est animal ou presque, là, on touche plus à ça parce que ça produit trop de CO2?
Moi, ben, il y a des, c'est clair que c'est des mouvements qu'on voit, mais je vous cacherai pas que c'est l'agriculture, c'est 9% des gaz à effet de serre au Québec. La production laitière, là, c'est autour de 1%. Fait que je pense qu'il y a moyen encore d'avoir une alimentation équilibrée, là, justement pour parce que on sous-estime beaucoup l'impact, là, justement, des cultures de couverture, des productions fourragères, parce que les ruminants mangent des plantes avec les quatre estomacs, que souvent ça serait pas récupéré. Là. Mm. On fait quand même du lait avec des ruminants qui ont qui serait perdu, là. Je pense à la production bovine, entre autres, là, dans des pâturages, dans des régions là plus nordiques. T'sais, il y a quand même des opportunités pour ces productions-là. Je pense que ça va être dans l'équilibre. J'ai confiance aux consommateurs que c'est d'avoir une alimentation équilibrée va rassembler tout le monde. Puis on est conscient, là, nous, comme producteurs, ben, les changements climatiques, ça a un impact là, chaque jour hein, sur nos fermes. Dans notre production céréalière, fourragère. Fait que c'est clair qu'on veut agir, là. C'est pas seulement des théories, là. On voit quand même ça depuis plusieurs années, là. Les périodes de chaleur, les périodes de sécheresse.
Ouais, parce que ça vous frappe de plein fouet, là, quand le prix du grain augmente. Ça fait en sorte que c'est difficile, l'inflation, vous l'avez d'en face, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui se plaignent que le prix du lait est cher en ce moment puis qu'il n'a pas arrêté d'augmenter, mais je présume que vos producteurs, ça vit pas la grasse vie, là.
Ben exactement, là, tu sais, on a le contexte géopolitique, mais quand on a vu ce qui est arrivé là dans l'Ouest canadien avec des sécheresses là très importantes, des feux, ça a un impact là sur le prix des intrants. C'est clair que pour nous là, il faut agir. Ça fait partie de notre responsabilité sociale là comme producteur.
Bon, hey, en terminant là, juste parce que vous êtes là, il se passe quoi avec les vaches à Saint-Sever? On les a-tu trouvées? Les avez-vous pognées?
Ouais, ben disons qu'on a mis beaucoup d'énergie là, de coordination là, mais c'est clair qu'il y avait eu beaucoup de brouhaha, puis il faut pas courir après des vaches là, c'est de les affoler.
Mais est-ce que c'est réglé ou
excusez, oui.
Est-ce que c'est réglé?
Non, c'est encore en ce moment. Il y a des postes d'alimentation qui sont montés justement pour les attirer. Mais c'est clair qu'on a hâte là, qu'il soit à l'abri pour l'hiver. Là.
Bon, M. Gobeil, appelez-nous quand c'est réglé, parce que on suit ça avec grande attention aussi.
Pas de problème. Moi, je pense que tout le Québec suit la vie de ces vaches-là très assidu.
Bonne journée, M. Gobeil. Salut.
Oui, merci beaucoup. Bonne journée.